Chapitre 7. Les batailles spatiales au cinéma et dans les holos m'ont toujours terriblement ennuyé, mais il faut dire que le spectacle en direct était assez fascinant, un peu comme l'aurait été la retransmission fidèle d'une série d'accidents de la route. En fait, le niveau de réalisme de la production, comme c'était sans doute le cas depuis des siècles, était beaucoup moins élevé que celui d'un holodrame, même à budget modéré. Malgré les énergies considérables qui y étaient déployées, la première réaction que l'on avait devant une bataille spatiale authentique était de se dire que l'espace était bien vaste comparé à la petitesse des flottes humaines et de leurs dérisoires engins de guerre. C'est du moins ce que je me disais en contemplant, dans le centre d'information tactique, appelé aussi salle de guerre, en compagnie de Gladstone et de ses zèbres militaires, les quatre murs de 20 mètres de large, transformés en trous béants sur l'infini, qui nous entouraient de leur imagerie en trois dimensions, tandis que les haut-parleurs de la salle nous emplissaient les oreilles de méga-transmissions. Échange radio entre chasseurs, crépitement incessant des communications du centre de commandement tactique, messages d'un vaisseau à l'autre sur large bande, faisceaux de communication laser, méga-transmissions codées, le tout accompagné des cris, des injonctions et des obscénités qui ont toujours régné sur les champs de bataille depuis que l'homme existe. Ce que j'avais sous les yeux, c'était une représentation théâtrale du chaos total, une définition fonctionnelle du concept de confusion, une danse désordonnée à la gloire de la violence sinistre. C'était la guerre. Gladstone siégeait, avec une poignée de ses collaborateurs, au milieu de tout ce bruit et de toute cette lumière. La salle de guerre flottait comme un rectangle moqueté de gris au milieu des étoiles et des explosions. Le limbe d'Hyperion formait une brillance lapis-lazuli qui remplissait la moitié du mur holo situé au nord. Les gémissements des blessés et des agonisants emplissaient tous les canaux et toutes les oreilles. Et je faisais partie de la poignée de gens de l'entourage de la présidente qui avait le privilège maudit d'être là. La présidente fit tourner son fauteuil à dossier haut, se tapota la lèvre inférieure du bout de ses doigts réunis, puis se tourna vers ses militaires.
« Quel est votre avis ?»
Les sept médaillés s'entre-regardèrent. Puis six perdieux se tournèrent vers le général Morpurgo qui mâchonnait un cigare éteint.
« Ça ne colle pas, » dit-il. « Nous les maintenons à distance du système Distrans, nos défenses semblent tenir bon, mais ils ont pénétré trop loin dans le système. »
« Amiral !»
demanda Gladstone en inclinant très légèrement la tête en direction du militaire dégingandé en uniforme noir de la force. L'amiral Singh passa la main dans sa courte barbe.
« Le général Morpurgo a raison, » dit-il. « Cette campagne ne se déroule pas comme prévu. »
Il désigna du menton le quatrième mur, où des diagrammes, pour la plupart des ellipsoïdes, des arcs de cercle et des ovales, s'affichait en surimpression sur une vue statique du système d'Hyperion. Un certain nombre d'arcs se mirent à grossir sous les yeux de l'assistance. Les lignes bleues lumineuses représentaient les trajectoires de l'hégémonie. Les lignes rouges représentaient les extros. Il y avait beaucoup plus de lignes rouges que de lignes bleues.
« Les deux gros porteurs affectés à l'unité opérationnelle numéro 42 ont été mis hors de combat »,
déclara l'amiral Singh.
L'Olympus Shadow a été détruit avec tout son équipage et le Neptune Station a été gravement endommagé. Mais il regagne actuellement la zone d'accostage 6 lunaire avec une escorte de 5 vaisseaux torches.
La présidente hocha lentement la tête. Sa lèvre inférieure descendit au contact de ses mains jointes par le bout des doigts.
Combien d'hommes se trouvaient à bord de l'Olympus Shadow, amiral ?
Les yeux marrons de Singh étaient aussi larges que ceux de la présidente, mais ne suggérait pas les mêmes abîmes de tristesse. Il soutint son regard durant quelques secondes avant de répondre.
« 4200, sans compter le détachement de marine de 600 hommes environ, dont certains ont été déposés à la station Distrans d'Hyperion. Nous manquons d'informations précises sur leur nombre à bord au moment des combats. »
Gladstone hocha plusieurs fois la tête. Elle se tourna de nouveau vers Morpurgo.
« À quoi attribuez-vous ces soudaines difficultés, général ?»
L'expression de Morpurgo demeura calme, mais il avait déjà presque cisaillé le cigare planté entre ses dents.
« Un peu plus d'unités de combat de leur côté que nous ne l'avions escompté, madame, » répondit-il. « Sans compter leurs fameux lanciers. Des engins avec 5 hommes à bord, qui sont en réalité des vaisseaux torches en miniature, plus rapides et mieux armés que nos chasseurs à long rayon d'action. Ce sont de dangereux petits frelons. » que nous détruisons par centaines, mais il suffit que l'un d'entre eux se glisse à l'intérieur de nos défenses pour causer de terribles dégâts. Et il y en a plus d'un qui est passé,
acheva-t-il avec un haussement d'épaules. Le sénateur Kolchev, assis de l'autre côté de la table avec 8 de ses collègues, pivota sur son siège jusqu'à ce qu'il eût la carte stratégique dans son champ de vision.
« On dirait qu'ils ont presque atteint Hyperion »,
fit-il d'une voix rauque qui ne ressemblait pas à celle que les médias avaient fait largement connaître.
« Tenez compte de l'échelle, monsieur le sénateur », lui dit Singh. « En réalité, nous contrôlons encore la plus grande partie du système. Tout ce qui se trouve dans un rayon de 10 UA d'Hyperion est entre nos mains. La bataille s'est déroulée au-delà du nuage Dwart et nous sommes en train de nous regrouper.
Est-ce que toutes ces taches rouges sont au-dessus du plan de l'écliptique ?
Demanda le sénateur Richaud. Elle-même était toute vêtue de rouge. C'était l'une de ces images de marque au Sénat.
Intéressant stratagème, fit Singh en acquiesçant. L'essaim a organisé son attaque avec 3000 lanciers environ pour prendre en tenaille le périmètre électronique de l'UO-87-2. L'offensive a été contenue, mais il faut admirer l'habileté de
3000 lanciers,
coupa Gladstone d'une voix faible.
Oui, madame.
La présidente eut un sourire. J'interrompis mon croquis en me disant, à part moi, que je n'aurais pas aimé qu'un tel sourire s'adressât à moi.
Ne nous a-t-on pas affirmé, hier, ici même, que les extros mettraient en ligne 600 ou 700 unités de combat au grand maximum ?
Demanda-t-elle en se tournant brusquement, le sourcil droit arqué, vers le général Morpurgo, qui était l'auteur de ces paroles. L'intéressé ôta le cigare de ses lèvres, plissa le front en l'examinant, puis retira le deuxième petit morceau de derrière ses dents du bas.
« C'était un chiffre fourni par nos services de renseignement, » dit-il. « Il était erroné. »
« Est-ce que l'Assemblée consultative des IA a participé à cette évaluation de la situation ?»
demanda Gladstone en hochant la tête. Tous les regards se tournèrent vers le conseiller Albedo. C'était une projection parfaite. Tranquillement assis dans son fauteuil parmi les autres, les mains normalement posées sur les accoudoirs, il ne présentait aucun flou, aucune transparence caractéristique des projections animées habituelles. Son visage était tout en longueur, avec des pommettes hautes et une bouche mobile dont le sourire semblait toujours un peu sardonique, même dans les moments les plus graves. Et celui-ci en était un.
« Non, madame la présidente, »
déclara le conseiller Albedo. L'Assemblée consultative n'a pas reçu de demande d'évaluation des forces extro. Gladstone hocha lentement la tête.
« J'aurais pourtant cru, » dit-elle en s'adressant toujours à Morpurgo, « que les rapports que vous receviez de vos services de renseignement intégraient les projections du technocentre. »
Le général lança un regard noir à Albedo.
« Ce n'est pas le cas, H-présidente, » dit-il. Le centre affirme n'avoir aucun contact avec les extros. Nous avons donc pensé que ces projections ne vaudraient pas mieux que les nôtres. Toutefois, nous nous sommes servis du réseau IA global du RTHECMO pour mener à bien nos estimations. L'Assemblée consultative aurait-elle pu faire mieux ?
Gladstone se tourna vers Albedo. Le conseiller fit un geste bref de sa main droite aux doigts effilés.
Nos estimations, en ce qui concerne le présent essaim, faisait état de plus de 4 à 6 000 unités de combat.
« Espèce de !»
commença Morpurgo, cramoisi.
« Pourquoi n'avez-vous pas mentionné ce chiffre lors de cette réunion ou dans nos précédentes discussions ?»
demanda Gladstone. Le conseiller Albedo haussa les épaules.
« Le général a raison, » dit-il. « Nous n'avons aucun contact avec les extros. » Et nos estimations ne sont pas plus fiables que celles de la force. Elles sont seulement fondées sur des prémices différentes. Le réseau tactique historique de l'école de commandement militaire d'Olympus accomplit un excellent travail. Si leurs IA avaient seulement un point supplémentaire d'acuité sur l'échelle de Daimler-Turing, nous serions sans doute obligés de les prendre avec nous dans le centre.
Il refit le même geste élégant de la main droite avant de poursuivre.
Quoi qu'il en soit, l'Assemblée consultative est prête à procéder à des évaluations ultérieures qu'elle communiquera sur demande à votre groupe. Nous vous en saurons gré,
lui dit Gladstone en hochant la tête. Elle se tourna de nouveau vers l'écran. Tous les autres l'imitèrent. Détectant le silence, les moniteurs de la salle augmentèrent le volume. On entendit de nouveau les cris de guerre, les gémissements des blessés, la monotone énumération des positions militaires, les ordres et les commandements pour la conduite de tir. Le mur le plus proche affichait la transmission en direct des opérations de recherche de survivants, effectuées par le vaisseau torche N'Djamena parmi les débris flottants de la division de combat B5. L'épave du vaisseau torche dont le N'Djamena s'approchait, grossi 1000 fois, ressemblait à un fruit éclaté, une grenade dont les grains et l'écorce rouge se déversaient au ralenti à l'extérieur pour former un nuage de particules, de gaz, de matières volatiles solidifiées par le froid, de composants microélectroniques arrachés par millions à leur support, de provisions et de matériel déchiqueté. Parmi tout cela, on reconnaissait, à leur allure de marionnette aux membres disloqués, un très, très grand nombre de corps. Le projecteur du N'Djamena, avec son faisceau de 10 mètres au bout d'un trajet en lumière cohérente de 32 000 km, balayait les débris gelés éclairés par la lumière stellaire et mettait en relief les objets individuels, leurs facettes et les visages des morts. Ce spectacle ne manquait pas d'une certaine beauté hallucinante. Et la lumière réfléchie faisait paraître beaucoup plus âgé le visage de Gladstone.
« Amiral, demanda-t-elle, peut-on logiquement penser que les extros ont attendu pour attaquer que l'UO-87-2 se translate dans le système ?»
Singh se frotta la barbe.
« Vous voulez savoir si nous sommes tombés dans un piège, madame ?»«
Oui. »
L'amiral jeta un coup d'œil à ses collègues, puis répondit.
« Je ne le pense pas. À notre avis, d'après moi, lorsque les extros ont constaté l'importance des forces engagées par l'hégémonie, ils ont décidé de nous faire pièce. Cela signifie en tout état de cause qu'ils sont décidés à s'emparer du système d'Hyperion.
En ont-ils les moyens ?» demanda Gladstone.
Elle ne quittait pas des yeux les débris qui flottaient sur l'écran au-dessus d'elle. Le corps d'un jeune homme, à moitié dans son scaphandre et à moitié dehors, se rapprocha de la caméra en tournoyant. Ses yeux et ses poumons éclatés étaient clairement visibles.
« Non, » répondit l'amiral Singh. « Ils peuvent nous infliger des pertes sévères. Ils peuvent même nous forcer à nous retrancher sur un périmètre défensif autour de la planète proprement dite. Mais ils ne peuvent ni nous battre, ni nous chasser d'Hyperion.
Ni détruire la porte Distrance. »
demanda le sénateur Richaud d'une voix tendue.
« Ni détruire la porte Distrance, » répéta Singh. « Il a raison, » fit le général Morpurgo. « Je suis prêt à jouer ma carrière là-dessus. »
Gladstone se leva en souriant. Les autres, moi compris, s'empressèrent de se lever aussi.
« C'est déjà fait, »
annonça la présidente à Morpurgo d'une voix tranquille.
« Vous la jouez. »
« Nous nous retrouverons dans cette salle, » ajouta-t-elle à l'intention des autres, « chaque fois que les événements l'exigeront. Ash Hunt assurera la liaison entre nous. En attendant, mesdames et messieurs, le gouvernement continue son travail. Je vous souhaite un bon après-midi. » Tandis que les autres se retiraient, je repris mon siège et demeurai bientôt seul dans la salle. Les haut-parleurs reprirent du volume. Sur un canal, on entendait pleurer un homme. Un rire hystérique retentit au milieu des parasites. Au-dessus de moi, derrière moi, de chaque côté, les champs d'étoiles se déplaçaient lentement contre le noir du cosmos et la lumière stellaire jetait des éclats froids sur un spectacle de ruines et de désolation. La maison du gouvernement était construite en forme d'étoile de David. Au centre de l'étoile, abritée par des murs bas et quelques arbres stratégiquement disposés, se trouvait un jardin, plus petit que les parterres de fleurs à la française du parc Audin, mais non moins beau. C'est là que je déambulais à la tombée du soir, sous la lumière bleutée de Tossetti qui prenait des reflets dorés, lorsque Meina Gladstone arriva au rendez-vous. Nous marchâmes ensemble quelques instants en silence. Je remarquai qu'elle avait troqué son tailleur contre une robe longue du genre de celle que portent les matrones de Patoufa. C'était un vêtement ample, aux nombreux replis, incrusté de motifs complexes bleus et or qui rappelaient presque le ciel en train de s'assombrir. Ses mains étaient enfouies dans des poches dissimulées par les replis du tissu, et les larges manches ondoyaient sous la brise. L'ourlet traînait sur les dalles d'un blanc laiteux de l'allée. « Vous les avez laissés m'interroger jusqu'au bout, » lui dis-je.
Je serais curieux de savoir pourquoi. Elle me répondit d'une voix lasse.
Il n'émettait pas. Il n'y avait aucun danger que les informations sortent de là.
Vous n'avez tout de même rien fait pour m'épargner l'épreuve, murmurai-je avec un sourire.
La sécurité voulait obtenir un maximum de renseignements sur eux.
Même au prix de désagréments sur ma personne?
Oui.
Et la sécurité, c'est maintenant pour qui ils travaillaient?
Un nom a été mentionné, celui d'Arbrit. D'après la sécurité, il ne peut s'agir que d'Emlem Arbrit.
L'importatrice d'Askis.
Oui. Diana Philomel et elle sont en relation avec les anciennes factions royalistes de Glennonite.
C'était des amateurs, murmurai-je, en songeant à Hermund, à qui ce nom avait échappé, et à la manière désordonnée dont Diana m'avait interrogé.
C'est évident.
Ces royalistes sont-ils en rapport avec des groupes plus sérieux?
Il n'y a que l'église Grichtek,
me répondit Gladstone. Elle s'arrêta à l'endroit où l'allée traversait un étroit cours d'eau sur un pont de pierre. Relevant sa robe, elle s'assit sur un banc de fer forgé avant de reprendre.
Aucun évêque n'a encore montré le bout de son nez dans cette affaire, vous savez.
Avec les émeutes et les mouvements d'opinion qu'ils ont sur les bras, je ne leur donne pas tort. Je demeurais debout. Il n'y avait ni moniteur ni garde du corps en vue, mais je savais que si je faisais le moindre mouvement suspect dans sa direction, je me retrouverais vite fait en détention dans le plus grand secret. Au-dessus de nous, les nuages avaient perdu leur dernier reflet doré et commençaient à prendre la coloration argentée qui venait des nombreuses cités-tours illuminées de Tessé Carré. Qu'est-ce que la sécurité a fait de Diana et de son mari? Demandai-je.
Ils ont subi un interrogatoire poussé. Ils sont actuellement en détention.
Je hochai la tête. Un interrogatoire poussé, cela signifiait sans doute que leur cerveau était en train de flotter, en ce moment même, dans des bacs de dérivation totale et que leur corps serait conservé dans des chambres cryotechniques jusqu'à ce qu'un procès secret détermine si leurs actions relevaient de la haute trahison. À l'issue du procès, les corps seraient sans doute détruits et Diana et Hermund resteraient en détention avec tous les canaux com et sensoriels coupés. L'hégémonie ne pratiquait plus la peine de mort depuis des siècles, mais les solutions de rechange n'étaient pas particulièrement agréables. Je m'assis finalement sur le banc à 1,50 m de la présidente.
« Est-ce que vous écrivez toujours de la poésie ?»
Surpris par la question, je laissai errer mon regard le long de l'allée où des lanternes japonaises suspendues et des globes bioluminescents venaient de s'éclairer.
« Pas vraiment, » répondis-je. « Il m'arrive de rêver en vers, mais de moins en moins souvent. »
Mayna Gladstone croisa les mains sur ses genoux et les étudia songeusement.
« Si vous deviez écrire quelque chose sur les événements en cours, »
murmura-t-elle,
« quel genre de poème choisiriez-vous de créer ?»«
J'ai déjà essayé. » répondis-je en riant. J'ai abandonné deux fois, ou plutôt c'est lui qui a essayé.
Le thème était celui de la mort des dieux et de leur difficulté à accepter leur exil. Celui de la souffrance, de la transformation et de l'injustice. Celui du poète également. Il pensait que c'était le poète qui souffrait le plus de toutes ces injustices. Elle se tourna vers moi pour me regarder. Son visage, dans la pénombre, était un lacis de rides et de creux.
Qui sont les dieux que l'on est en train de chasser cette fois-ci, H. Severn? Est-ce l'humanité ou bien les faux dieux que nous avons créés pour qu'ils nous évincent?
Comment diable le saurais-je?
Lançai-je en détournant la tête pour contempler le cours d'eau.
Ne faites-vous pas partie des deux mondes à la fois? L'humanité et le technocentre?
J'éclatai de rire. Je ne fais partie d'aucun des deux. Je ne suis qu'un monstre cybride ici et un programme de recherche là-bas.
Le programme de recherche de qui? Et sur quoi?
Je haussai les épaules. Gladstone se leva. Je l'imitai. Nous traversâmes le cours d'eau. J'écoutais le murmure de l'eau coulant entre les pierres. L'allée continuait en sinuant entre des rochers couverts d'un exquis tapis de lichen que la lumière des lanternes rendait luisant. Gladstone s'arrêta en haut d'un court escalier de pierre aux marches plates.
Croyez-vous que les ultimistes du technocentre réussiront à construire leur intelligence ultime, H. Severn?
S'ils créeront Dieu? Il y a des IA qui s'opposent à cela. L'expérience humaine leur a appris que la réalisation d'un stade de conscience plus avancé est une invitation à la servitude, sinon à l'extinction pure et simple.
Mais un vrai Dieu choisirait-il de mener ses créatures à l'extinction?
Dans le cas du technocentre et de son hypothétique IU, Dieu est la créature et non le créateur. Je suppose qu'un Dieu se sent obligé de créer des créatures inférieures en contact avec lui afin de se sentir responsable d'elles.
Et pourtant, c'est le technocentre qui semble avoir assumé la responsabilité des humains depuis que les IA ont fait sécession.
Elle me regardait avec la plus grande intensité, comme si mon expression pouvait lui apporter un indice. Je me détournais une fois de plus pour contempler le jardin. L'allée brillait dans l'obscurité d'une lueur blanche presque irréelle. Le technocentre poursuit ses propres objectifs, lui dis-je. Je savais, en prononçant ces paroles, qu'aucun être humain ne pouvait être plus conscient de leur réalité que Mayna Gladstone.
Et vous pensez que l'humanité ne figure plus pour lui au nombre des moyens susceptibles de lui permettre de les réaliser ?
Me demanda-t-elle. Je fis un geste vague de la main droite. Je suis une créature qui n'appartient à aucune de ces deux cultures, insistai-je. Je n'ai ni le privilège de la naïveté des créateurs involontaires, ni la malédiction de la terrible conscience de soi de leur créature.
Génétiquement, vous êtes 100% humain.
Ce n'était pas une question. Je ne répondis pas.
Jésus-Christ, disait-on, était 100% humain, reprit-elle. Mais il était aussi 100% divin. Le carrefour de l'humain et du divin.
J'étais stupéfait de l'entendre se référer à cette ancienne religion. Le christianisme avait cédé la place d'abord au christianisme zen, puis au gnosticisme zen, et ensuite à une centaine de théologies et de philosophies plus vitales. Le monde natal de la présidente n'était le berceau privilégié d'aucune croyance particulière. J'avais supposé, et j'espérais, que ce n'était pas non plus le cas de la présidente. S'il était 100% humain et 100% divin, répliquai-je, je suis son image d'antimatière.
Non, fit Gladstone. Pour moi, cette image, c'est le Gritch auquel sont confrontés vos amis pèlerins.
Je la regardais interloquée. C'était la première fois qu'elle faisait devant moi allusion au Gritch, malgré le fait que je savais, et qu'elle savait que je savais, qu'elle avait prévu dès le début la trahison du consul, qui l'avait conduit à ouvrir les tombeaux du temps et à libérer le monstre.
Vous auriez peut-être dû participer à ce pèlerinage, H. Severn, me dit-elle.
En un sens, répliquai-je, j'en fais partie. Elle fit un geste et une porte conduisant à ses appartements privés s'ouvrit.
C'est vrai, vous en faites partie d'une certaine manière,
murmura-t-elle.
Mais si la femme qui porte votre homologue se fait empaler sur le légendaire arbre à épines du Gritch, est-ce vous qui souffrirez pour l'éternité dans vos rêves?
Je n'avais pas de réponse à cela. Je demeurais là où j'étais sans rien dire.
Nous aurons un entretien demain après la réunion,
m'annonça Mayna Gladstone.
Bonne nuit, H. Severn. Faites de beaux rêves.